On est une graine dans votre main, une seule graine dans votre main, qu'elle soit de n'importe quoi, de blé, de tomate, de ce qu'on voudra, et c'est un concentré de vie absolument extraordinaire.
CO2, mon amour.
Parce que quand vous allez mettre cette graine dans la terre, elle va, la vie va exploser à partir de cette graine insignifiante, qui paraît insignifiante, et il y a une puissance extraordinaire.
Denis Chessou.
Dans une graine, un grain de blé, on pourrait par des multiplications nourrir toute l'humanité.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine de nature et d'environnement, parce qu'on n'attend pas le changement, mais que nous sommes le changement, on le répète, mais si, on y croit. Avec aujourd'hui à la technique Michel Bézikian et Clément Billet, non ? Oui, c'est ça, absolument. Christian, et puis nous avons Caroline Debray qui est notre assistante et Xavier Pestuccia qui réalise l'émission. Et ça va commencer par une petite humeur. Vous avez entendu la voix de Pierre Rabhi hein, concernant donc la graine qui va être notre sujet d'aujourd'hui. Alors évidemment, des pesticides, en veux-tu, en voilà, dans les champs, dans tes vignes, dans ton assiette, dans ta cour d'école, en veux-tu ? Non ! Eh bah, en voilà quand même, en voilà toujours, car tu vis en France et qu'on a toujours aimé la chimie. Du nucléaire pour produire de l'électricité, religion française qui a eu son heure de gloire. EDF, vous savez, c'est un peu comme les humains avec la sécurité sociale. Plus on vieillit, eh bah oui, plus on va coûter cher. Alors ne réduisons pas et renflouons le navire EDF Areva et la filière qui prend l'eau malheureusement. Les 3 milliards pour le Arevaton n'étant qu'un tour de chauffe, qu'une bande-annonce. Des nicotinoïdes dont raffolent les abeilles suicidaires, encouragés en sous-marin auprès des députés par le ministre de l'Agriculture. En veux-tu l'abeille ? Eh ben non, pas forcément. Des résidus de boue rouge toxiques à Gardanne, autorisés après arbitrage de Manuel Valls, en veux-tu ? Alors vous me direz, les fonds méditerranéens à 300 mètres sont déjà stérilisés. Renversons toujours la bouteille, comme le dit si bien Nicole Ferroni, au nom de l'empoisonnement. Un bel aéroport tout neuf pour la Dame des Landes en classe éco, indispensable pour faire tourner l'immobilier, raboter quelques terres agricoles, en veux-tu ? Mais comme il y aura une nouvelle peut-être en enquête d'utilité publique, bah tout ceci va prendre un an après le référendum de juin, donc ce sera sur le bureau des suivants. Je clique aussi sur une case régionale Auvergne-Rhône-Alpes, la Maison de la Nature et de l'Environnement de l'Isère, qui regroupe 39 associations, voit sa subvention annuelle passer de 120 000 à 18 000 euros. Alors derrière un petit peu, il s'agit quand même de frapper la FRAPNA. La FRAPNA, c'est la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature qui empêche de bétonner en rond et qui s'est opposée au Center Park de Roibon dans l'Isère. Et le conseil départemental risque de subventionner les associations plus dociles qui permettront de fournir des prestations de bureaux d'études à moindre coût. Bref, bienvenue en France, pays de l'exemplarité écologique. Le tout étant bien sûr compatible COP21. Et quand il voit ça, le muguet ? Eh ben le muguet, vous comprendrez que le muguet du 1er mai, il fasse la gueule et qu'il n'a pas envie de sortir. Feignasse qu'il est d'ailleurs aussi, mais il faut dire qu'il n'a pas eu sa dose d'hiver et de repos végétatif. Alors vous verrez, demain vous offrirez des asperges, c'est la saison, vous rajoutez une clochette au cou des asperges, ça porte bonheur et en plus ça se mange. Il ne vient pas du pays des asperges, mais il vient du pays des chicons, autrement dit des endives, même si c'est la fin de saison. Bonjour Frédéric Danhé.
Bonjour Denis, vous êtes en forme. Les asperges avec une clochette, j'y avais pas pensé.
Ben oui, ben ça m'est venu il y a 2 minutes 15, hein, pas plus, vous savez ce que c'est. Donc vous êtes toujours un homme du Nord, mais oui. Alors vous serez avec nous la semaine prochaine, je vous ai pas convoqué parce que vous êtes avec vos enfants, ils ont besoin de leur papa. conférence environnementale, donc c'était la dernière de ce quinquennat. Qu'est-ce que l'on peut en dire aujourd'hui ? Bon, les associations sont dubitatives, etc. Si on commence peut-être par la transition énergétique qui est toujours théorique tant que la programmation pluriannuelle de l'énergie, c'est-à-dire la feuille de route, n'est pas sortie, mais doit normalement sortir au mois de juillet. Hein, donc,
Oui, effectivement, on est encore dans l'intention, mais c'est toujours l'intention qui compte, comme vous le savez, mon cher Denis. Non, au moins l'objectif d'atteindre les 32% d'énergie renouvelable a été renouvelé, ce qui veut dire, et ça a été acté par le gouvernement, qu'il faudrait doubler la production d'énergie par les éoliennes, tripler celle par les panneaux photovoltaïques et augmenter de moitié celle par la combustion de la biomasse. Bon, plus un petit programme de micro, de petite hydroélectricité. Ben voilà, les choses sont pas encore mises en pratique, mais au moins les choses sont dites. On voit mal comment le gouvernement suivant, après les élections, pourra revenir en arrière. Donc on va pas bouder notre plaisir. Et aussi, oui, pardon.
Lorsqu'on regarde ce qu'on appelle la RT, autrement dit la réglementation thermique sur les logements aussi.
Ça... Oui, ça va changer. Ça va changer. Alors, faut savoir que sur le bâtiment, il y a 16 décrets qui sont en attente. 16 décrets, comme quoi les choses avancent aussi. 16 décrets sur la performance énergétique des bâtiments, aussi bien de bureaux que de commerces que chez nous. Il y en a notamment quelques-uns qui sont intéressants. Il y en a un qui devrait placer la performance énergétique comme critère de décence en septembre 2016. Ça veut dire quoi le critère de décence ? Ça veut dire qu'on ne pourrait plus louer ou qu'on n'aurait plus vendre un logement insalubre. Et dans cette insalubrité, il y aurait la performance énergétique. Autrement dit, une passoire énergétique pourrait être considérée comme insalubre. Ça, c'est une avancée importante, je pense. Et puis, il y a un nouveau décret qui devrait sortir sur, qui ferait obligation aux propriétaires de, dès lors qu'ils engagent des travaux importants sur la façade, sur la toiture, ou s'il y a une extension prévue à un logement, eh bien, que ces travaux soient adossé à une obligation d'isolation thermique. Voilà, ça va quand même dans le bon sens.
Bon, alors effectivement, tout dépendra de la façade, parce que si vous avez une jolie façade, très souvent, on vous la transforme un petit peu quand même en blocos, à quelques nuances près.
Non, mais c'est vrai, Denis, c'est tout le problème de l'isolation par l'extérieur.
Oui,
on sait très bien que c'est beaucoup plus efficace, sauf que ça transforme les maisons en blocos, quoi. C'est pas... Les passives à eau, c'est quand même un peu des blocos, hein. C'est pas très beau.
Si on regarde sur le nucléaire et aussi la faillite d'EDF que l'on veut éviter, parce qu'on en est quand même là, on va pas être dans l'euphémisme, enfin on en est quand même là. L'avis aussi est intéressant de l'ASN, donc de l'autorité de sûreté nucléaire.
Alors qu'on attend pour 2018, donc c'est-à-dire pour, vous l'avez bien compris, Denis, pour
après
les prochaines présidentielles, mais c'est terrifiant, vous savez, EDF, c'est une espèce de... EDF et Areva, c'est... se partage une chaise qui est dont chaque pied est posé sur des livres. Alors, tout ça est un peu branlant et chaque livre est tout une centrale nucléaire ou un gisement nucléaire. Et ces livres sont en train de foutre le camp et la chaise est en train de tomber. Et derrière tout ça, c'est une construction de la résistance EDF. Et puis c'est une entreprise publique et c'est quasiment un lien, un cordon ombilical entre nous et l'État. Et on y a cru et EDF est en train de se casser la figure pour n'avoir pas choisi comment remplacer ces livres qui sont en train de ficher le camp. On n'a rien, c'est ça qui est
terrifiant. Une fois de plus, c'est pas du tout une bonne nouvelle. Le prix plancher du carbone, autrement dit, la taxe carbone. Ça, ça a été réaffirmé par le président de la République.
Oui, alors, il a rien inventé, faut savoir que c'était mis en place par la Grande-Bretagne en 2013, c'est-à-dire qu'il y a un prix plancher du carbone de 30 euros. Je m'explique, aujourd'hui, le marché de la tonne de carbone est autour de 5 à 6 euros. En Grande-Bretagne, dès lors que le marché reste à 5 euros, les producteurs d'électricité se voient allouer une taxe de 25 euros, donc entre le prix du marché et le prix plancher fixé par le gouvernement britannique. François Hollande se propose de faire la même chose en France, de façon à inciter, en gros, les producteurs d'électricité à partir de charbon. Vous allez me dire qu'il n'y a plus que 5 centrales à charbon en France, mais quand même. Donc, une incitation, alors certes, vous l'avez compris, à continuer un peu sur le nucléaire, mais aussi une incitation, on peut l'espérer, à produire des énergies à partir de sources d'énergie renouvelables. C'est quand même intéressant. L'effet symbolique me semble important. Il pourrait déclencher un effet d'entraînement sur le marché européen.
Et puis, Frédéric, peut-être pour terminer, il y a eu pas mal de choses, mais quand même, ça aussi, on l'a pointé, les émissions, les obligations vertes, ce qu'on appelle les green bonds, pour les collectivités, pour les entreprises, on peut en savoir plus et quel est le mécanisme ?
Alors, ce sont des obligations, donc en gros, ce sont des actions cotées en bourse sur 50 ans avec un taux d'intérêt fixe, voilà, une obligation comme on peut en avoir sur des SICAV, des obligations qui sont destinées à financer des projets liés à la performance énergétique, au respect de la biodiversité, etc. Alors, tout le problème, c'est de savoir si cet argent va vraiment bénéficier à des projets qui vont vraiment apporter quelque chose en plus. Ça a l'air positif, en tout cas, c'est tous les gros acteurs financiers du monde sont prêts, manifestement, ils ont signé quelque chose là-dessus à la COP21, sont prêts à s'engager résolument. Et encore une fois, si la France émet des green bonds, ça pourrait créer un effet d'entraînement pour financer des projets, pour financer en gros la transition énergétique. C'est pas inintéressant.
Merci beaucoup Frédéric Doré. On vous retrouve la semaine prochaine. Vous n'avez rien contre Francis Cabrel, hein ?
Donc, non, absolument pas.
Nous non plus, donc on va jeter des cailloux dans le bayou.
J'ai appris à marcher dans le fond d'une barque entre les crosses des carabines. Je suis né dans le bayou. Je peux lire le futur dans les entrailles des tatous. Après j'essuie le sang sur mes jeans.
J'étais dans les meilleurs à l'école vaudou des sorciers noirs de New Orleans. J'suis né dans le bayou, j'suis né dans le bayou. Celui qui sèche dans la cour, j'en mange un peu, je danse autour, on dit que c'est bon pour l'amour. J'suis né dans le bayou. En parlant de ça, j'suis pas un phénomène, mais je me débrouille pour plaire. J'ai mon beau costard pour les fins de semaine, quand Peggy met sa robe légère. J'suis né dans le bayou, j'suis né dans le bayou. Et je danse sur la terre que j'aime, celle qui se gagne sur la boue. Et je marche dans la belle lumière verte du bayou. Et je danse sur la terre que j'aime, celle qui se gagne sur la boue. Et j'avance, j'avance dans la belle lumière verte du bayou.
Paul Sarès questionne aujourd'hui Monsieur le professeur Terrouanne.
Que pensez-vous, par exemple, monsieur le professeur, de la génétique qui a réussi à transformer certaines variétés de cultures pour en augmenter la production ?
Je ne crains pas de dire que les critiques dans ce domaine ne reposent absolument sur rien. Mon collègue, le professeur Genevoix de l'Université de Bordeaux, écrivait récemment « La biochimie moderne a donc permis de créer des tomates, des carottes et des maïs
CO2, mon amour.
Considérablement meilleurs que les variétés existantes il y a 20 ans seulement. Les légumes obtenus sur des terrains fertilisés par des engrais chimiques ont donné de meilleurs résultats que ceux cultivés avec des engrais naturels. »
Denis Chessou, sur France Inter.
Eh oui, comme les choses donc sont en train d'évoluer doucement, mais elles évoluent quand même. On va parler de graines de semences, parce que c'est avec elles que tout a commencé. C'est d'elles que partent toutes les plantes présentes sur Terre, les graines des centaines, des millions d'années avant notre belle apparition, nous humains, sur cette Terre. Alors aujourd'hui, la mondialisation, c'est-à-dire pour une grande partie, l'uniformisation du monde, piétine quand même gentiment la biodiversité. Et alors que la diversité des espèces végétales sur notre planète, vous le savez, se réduit de façon assez inquiétante, la question des semences est donc tout à fait centrale. On va avoir un reportage donc tout à l'heure très intéressant qui va nous emmener en Colombie avec Pierre Lefebvre. Et puis deux invités, à la fois Francis Burgot qui représente le CNIS, la direction des relations extérieures du CNIS, c'est-à-dire le groupement interprofessionnel des semenciers, des semences, donc on va pouvoir en parler avec vous, interprofessionnel des semences, et puis Philippe Desbrosses dans ce studio qui est agronome, agriculteur, qui est champion de la semence biologique, qui a repris la ferme de Sainte-Marthe de ses parents, et donc son histoire se confond avec l'émergence lente du bio en France. Philippe Desbrosses, dites-nous s'il vous plaît, donc qui est avec nous, quels sont les enjeu aujourd'hui des semences, que l'on comprenne bien quel est le tableau général aujourd'hui.
Lorsqu'on regarde les statistiques publiées par la FAO, qui nous annoncent que nous avons perdu en un siècle 75% de la biodiversité, 75% des variétés que nous cultivions encore au début du XXe siècle, eh bien on pense qu'il y a urgence et qu'on doit tous s'emparer de cette question et devenir tous les gardiens, les protecteurs de ces semences, en faisant de nos jardins, de nos balcons, de nos vergers, les refuges improvisés, de tous ces trésors de la nature qui, comme vous le disiez, Denis, depuis des milliers d'années, ont emmagasiné dans leur petit logiciel biologique extraordinaire et aussi aux extraordinaires interfaces, parce que cette mémoire des siècles et des millénaires passés nous amène vers peut-être la sécurité alimentaire et environnementale pour les siècles à venir, je l'espère pour nous tous et pour ceux qui vont nous suivre.
Et donc le lien entre les semences et la baisse de la diversité, on le comprend, et aussi baisse de la qualité nutritionnelle des aliments ?
Ah ben ça va de pair. expert. C'est qu'en fait, il y a maintenant de plus en plus de rapports qui sortent, mais c'est curieux, surtout aux États-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne, où des rapports ont montré qu'on a un effondrement de la valeur nutritionnelle des aliments. Alors, il y a trois raisons. Il y a la première, c'est la biodiversité, hein, ce qui nous amène à ce que nous appelons, nous avons baptisé ça il y a une trentaine d'années déjà, les aliments creux. Mais aujourd'hui, c'est récurrent parce que on se rend bien compte qu'il y a un problème au niveau de la santé publique. Là, il faut aller dans les pharmacies maintenant pour acheter toutes les choses qu'on ne peut plus trouver dans notre nourriture. Et quand on analyse...
Donc les fameux compléments alimentaires.
Les fameux compléments alimentaires ou les alicaments ou tous ces mots modernes. Et donc, aujourd'hui, quand on fait une comparaison et qu'on a, entre l'analyse, par exemple, de la vitamine C d'une variété ancienne de pommes transparente de Croncel ou d'une Golden, la célèbre Golden qui a colonisé 80% du verger européen en quelques...
Qui n'a pas grand-chose dedans. Hein,
décennies.
Peu de vitamine C,
justement,
ce que j'ai
alors,
vu. Là.
Moi, j'ai travaillé à l'époque avec une scientifique qui s'appelait Marie-Paul Verlaeten, qui était sous la direction du professeur Bougnas au CNRS de Paris, et ça fait au moins une trentaine d'années déjà. Elle avait fait cette comparaison où il y avait 4 mg de vitamine C aux 100 grammes dans une Golden, contre, tenez-vous bien, 100 fois plus, 400 mg dans une transparente de Croncel. Déjà, ça vous interpelle. Mmh. On peut d'ailleurs étendre cette vision à la plupart des légumes et des fruits que nous avons maintenant. Si on reprenait les tables nutritionnelles de la grande nutritionniste de 1930, Lucie Randoin, qui avait fait un screening de tous nos aliments, on serait probablement très surpris de ne plus y trouver les valeurs qu'on y trouve maintenant.
Alors là, pardonnez-moi, parce que moi j'ai sous les yeux, si vous voulez, un extrait du catalogue de chez Villemorin. Et on voyait qu'en 1900, donc il y avait 46 variétés de carottes. Il y en a 6 en 2014. Vous aviez 30 variétés de tomates ancienne en 1900, il y en a 7 en 2014. Pour les poireaux, il y en avait 15, il y en a 3 toujours en 2014. Alors, comment ça se fait? Est-ce que les paysans sont otages des semenciers industriels?
On pourrait dire qu'aujourd'hui, la base du renouvellement de l'alimentation des humains n'est plus directement accessible parce que les grands monopoles qui manipulent les États pour créer des réglementations si compliquées qu'elles ne sont gérables que par eux. Leur objectif semble être, j'ai dit bien semble, je suis pas sûr, hein, je voudrais bien qu'ils nous prouvent le contraire, d'empêcher les humains d'échanger entre eux les graines reproductibles comme ils l'ont fait depuis des millénaires. Tous ces gardiens légitimes qui ont cultivé toutes ces variétés qui ont accompagné l'évolution de l'humanité depuis le début des temps, eh bien aujourd'hui ces variétés là sont devenues illégales. Et moi je suis un franc-tireur qui développe les semences illégales, et comme on peut pas les vendre, on les donne. Et c'est l'opération Graines de Vie que nous avons lancée l'année dernière, grâce à des mécènes, hein, quand même aussi, grâce à des sponsors, grâce aussi à un crowdfunding qui a magnifiquement réussi. Donc les gens sont majoritairement concernés et intéressés par ce dossier. Il faut penser que, c'est un de mes collaborateurs qui a dit ça un jour, ça m'a frappé, les graines vivent dans les sols et meurent dans les conservatoires. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que si elles ne sont pas reproduites en permanence, c'est pas le bunker glacé du Spitzberg avec illusion ou ce leurre ou ce mensonge qu'on va ressortir les variétés dans 100 ans ou 1000 ans, qui n'auront pas développé toutes les résistances et les aptitudes à résister.
Non, parce que le climat aura bougé, parce que le sol aura bougé aussi, etc.
C'est comme si on amenait un Indien de l'époque de Christophe Colomb sur la place de la Concorde à 5h du soir, il est mort dans les minutes qui suivent.
C'est ça. Alors donc, on va avoir maintenant l'avis de François Burgot, le directeur des relations extérieures du GNIS, autrement dit le Groupement National Interprofessionnel des Semences, qui est donc né en 1941. Bonjour François Burgot.
Bonjour.
Voilà. Donc, vous connaissez, hein, vous fritez avec Philippe Desbrosses, c'est d'ailleurs l'intérêt de ce débat. Juste nous rappeler qui compose aujourd'hui donc le GNIS, ce Groupement National Interprofessionnel des Semences. On se doute bien qu'il y aura un peu de semenciers autour de la table, hein, quand même.
L'interprofession des semences, mais d'abord bonjour à Philippe Desbrosses. L'interprofession, comme son nom l'indique, n'est pas un syndicat de semenciers. C'est un organisme qui regroupe tous les acteurs d'une filière. Donc ça va depuis les sélectionneurs de semences, qui sont encore 73 sur le territoire français, jusqu'aux utilisateurs finaux que peuvent être les agriculteurs ou les transformateurs. Et donc toutes ces familles, y compris les agriculteurs qui produisent des semences dans les champs, les distributeurs, etc., font partie de l'interprofession des semences et sont représentés à notre conseil d'administration.
Très bien, donc il y a aussi un membre de l'État, aussi, bien sûr, un responsable de l'État aussi dans ce conseil d'administration. Aujourd'hui, donc, quels sont les buts? Qu'est-ce que vous protégez ou bien qu'est-ce que vous ouvrez que l'on arrive à comprendre?
Bah, écoutez, l'objectif de l'interprofession des semences, c'est de faire en sorte que les agriculteurs et les jardiniers français trouvent les semences dont ils ont besoin.
Jusque-là, donc, c'est bon. Okay.
On y reviendra. Et puis, par ailleurs, on a un représentant de l'État, parce que l'État français en 1962 et ensuite l'Europe en 1966 ont effectivement décidé que la semence était un produit sur lequel on ne pouvait pas laisser librement jouer les règles du marché, c'est-à-dire que attendre que le client soit pas content pour qu'il aille chercher une semence chez quelqu'un d'autre. Et donc, l'Europe, il l'a réaffirmé récemment, on considère que les questions de sécurité alimentaire sont importantes, que deux grains de blé de variétés différentes dans la main, ça ressemble étrangement à la même chose. Et donc, l'État a souhaité qu'on assure une traçabilité de cette production.
Alors, qu'est-ce que le catalogue officiel, s'il vous plaît? J'aimerais qu'on avance un petit peu et qu'on parle aussi après des certificats d'obtention végétale, qui ne sont pas des brevets. On fera la différence entre le certificat et aussi un brevet. Mais donc, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle un catalogue officiel. Oui. Pour y rentrer, ça veut dire qu'il faut quand même aussi, bien sûr, payer, parce que derrière tout ça, on a envie d'en savoir plus. Qu'est-ce que c'est que ce catalogue officiel des semences?
Le catalogue, en fait, c'est la volonté des pouvoirs publics de dire: je dois savoir qu'est-ce qui rentre comme ressources génétiques, comme variétés sur mon territoire. Et je vous rappelle que, alors c'est vrai pour les espèces sauvages, les espèces non cultivées, puisque le code de l'environnement prévoit que quand vous voulez introduire des graines d'espèces sauvages sur le territoire français, il faut que vous demandiez une autorisation, mais ça ne nous concerne pas. Mais c'est vrai aussi pour les espèces cultivées, ça nous concerne, et effectivement, l'État veut savoir ce qui se passe. Alors après, les critères que définit l'État pour être sur ce catalogue, ils évoluent avec le temps.
Oui, ils évoluent aussi peut-être sous la pression quand même des semenciers. Alors là, ça m'intéresse d'avoir votre avis, s'il vous plaît.
Monsieur Burgos, je vous salue.
Philippe Desbrosses.
Je me souviens de notre émission au Salon de l'Agriculture, qui s'est passée de manière très courtoise d'ailleurs. Et vous m'aviez dit une chose qui m'avait beaucoup étonné. On m'a dit, mais c'est des gens comme vous que l'État devrait aider. Vous adressiez à moi, j'étais assez surpris de ça. Ceci dit, maintenant, l'État pourrait effectivement nous aider à faire passer un amendement dans la prochaine loi sur la biodiversité. Nous essayons d'y travailler. Mais
alors, quel est le problème que l'on comprenne? Parce que pour les gens,
le problème, c'est
est-ce qu'il y a un verrou sur les semences?
Oui, bien sûr. Les variétés traditionnelles ne peuvent pas être échangées ou vendues. Ce sont des variétés du domaine public. On ne devrait normalement pas pouvoir les protéger. Et c'était les variétés qu'utilisaient de tout temps les jardiniers, les petits paysans, qui ont disparu aujourd'hui. On n'a plus cet échange à partir des années 60. Ça fait un trou énorme. Alors justement, je voulais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, parce que c'est intéressant de dire oui, on veut préserver le consommateur pour pas qu'il y ait d'escroquerie en quelque sorte. Mais comment se fait-il, et c'est un paradoxe, qu'aux États-Unis, il n'y a pas de catalogue officiel? Et ça se passe très bien.
Alors, ça se passe très bien parce que les États-Unis ont l'habitude d'avoir des avocats qui ne payent pas, qui se payent sur les résultats. Donc, chaque fois qu'un consommateur un problème avec le produit qu'il a acheté, il va voir un avocat, et si l'avocat pense qu'il y a de l'argent à gagner, l'avocat s'occupe de son dossier librement. En France, c'est interdit. De même que vous savez parfaitement qu'aux États-Unis, ce qu'on appelle les class actions ou les actions de masse sont également possibles, c'est-à-dire des gens peuvent se réunir tous ensemble pour faire une action contre un fournisseur, c'est autorisé aux États-Unis, c'est interdit en France. Donc, par ailleurs, et je terminerai par là, les États-Unis, le fermier américain fait 4 tonnes de blé à l'hectare, et avec 4 tonnes de blé à l'hectare, les États-Unis sont autosuffisants en blé et exportateurs sur le marché mondial. Nous, on a une moyenne de 7 tonnes de blé à l'hectare, et on a besoin de ces 7 tonnes de blé à l'hectare. Donc, voilà, vous avez des différences, mais c'est vrai que cette revendication, si j'ose dire, du système américain, du marché libre américain, en disant, mais après tout, qui est pas que dans votre bouche, d'autres gens revendiquent ça en disant, il y a, laissons le marché faire les choses, il n'y a pas besoin, ouais, pas besoin de contrôle de la qualité des semences.
Je pense que c'est un peu plus subtil, mais on voit effectivement le...
C'est pas du tout la position de l'Europe, voilà, encore une fois, et c'est pas effectivement la position de la filière des semences françaises.
Alors, ce que je vous propose, non, juste pardonnez-moi, parce que je vous redonne la parole après, hein, François Bureau, vous inquiétez pas. Simplement, justement, comme vous parlez des États-Unis, on va aller un petit peu plus au sud, parce que je tiens vraiment à vous faire écouter ce reportage, donc, qui est signé Pierre Lefebvre et qui est très, très bien. Nous sommes en fait à Pereira, nous sommes en Colombie, et Mauricio Garcia anime un atelier qui travaille pour une ONG suisse, Swiss Aid, et qui est basée à Bogota. Alors là, ils font pas de cocaïne, on sait pas ça du tout. La cheville ouvrière du projet Resemina vise à construire un réseau national de semences traditionnelles pour faciliter la préservation, l'échange et la vente des semences. Et donc, il s'agit de parcourir le pays pour rencontrer des réseaux locaux déjà existants et les aider à se structurer après en un grand réseau colombien. Voilà. Donc, on part donc là-bas. L'objectif, c'est de maintenir vivantes ces semences qui pourraient demain disparaître.
Le projet consiste à récupérer toutes les semences natives et créoles qui sont importantes pour la souveraineté et la sécurité alimentaire des communautés. Elles font partie des systèmes de production traditionnels et font partie de leur identité culturelle. Ce que nous faisons, c'est reconnaître et valoriser le rôle des gardiens de semences, de ces personnes qui font un travail quotidien pour conserver les semences, les produire, les semer, mais également d'améliorer leurs caractéristiques génétiques. Parce que le travail qui se fait ici sur les connaissances concernant la reproduction des plantes n'est pas bien reconnu. Et puis aussi, en continuant sans arrêt de planter les semences, ils font en sorte qu'elles soient toujours adaptées aux conditions locales. C'est un travail très important.
Quel est l'intérêt en fait de ces semences traditionnelles? Pourquoi les conserver par rapport à des semences industrielles qu'on dit souvent plus productives?
En termes de productivité, nous disons que les semences traditionnelles, natives et créoles, comme elles sont adaptées aux conditions environnementales, sont peu sensibles aux conditions climatiques. Elles produisent toujours, et elles produisent un minimum de graines qui garantissent que ces communautés ne vont pas souffrir de faim par manque de semences.
Et quand il y a des conditions favorables,
elles ont une bonne productivité, un très bon rendement. Pas aussi élevé que les variétés industrielles, mais il faut tenir compte du fait que ces semences ne demandent aucun traitement particulier, aucun apport, aucun fertilisant, et qu'elles sont cultivées d'une façon traditionnelle.
Toujours en Colombie, dans ce pays de plus d'un million cent mille kilomètres carrés avec 48 millions et demi d'habitants, on va aller au sud de Pereira, vers Rio Sucio. Et on va rencontrer Maria Velma González, toujours au micro de Pierre Lefebvre, qui est une des gardiennes de semences et qui croit en la création de ce réseau national. Alors qu'est-ce que c'est une maison des semences?
Una casa de semillas, pues para nosotros.
Une maison des semences, pour nous, c'est bien plus qu'une banque de semences. C'est un lieu et un moment de rencontre des gardiens pour partager les semences et les connaissances. Le gardien des semences est un agriculteur très spécial qui a pris l'initiative de prendre soin, de conserver, de récupérer, de multiplier et de partager les semences traditionnelles et les connaissances qui leur sont associées. Si nous faisons tout cela pour conserver les semences, c'est parce que notre territoire a perdu beaucoup de semences traditionnelles. Parce que durant les 50 dernières années, nous avons eu un modèle agricole de révolution verte qui a changé la manière de penser notre agriculture traditionnelle et a mis en place un système d'agriculture d'agronégoce, c'est-à-dire produire plus pour le marché d'exportation que pour assurer notre souveraineté alimentaire. Ça a généré un changement culturel, un changement dans la façon de considérer l'agriculture. Beaucoup de semences ont donc été perdues parce que les agriculteurs ont copié un modèle venu de l'étranger et ont abandonné l'agriculture traditionnelle. Cela a conduit à faire beaucoup de monocultures, principalement de café et de canne à sucre, et à perdre beaucoup de variétés que nous avions pour notre alimentation.
On a donc une grande armoire en fait que vous venez d'ouvrir, dans laquelle il y a plein de bocaux avec à l'intérieur différentes semences. Il y en a beaucoup, il y a 1, 2, 3, 4 étagères. Alors est-ce que là je prends un bocal, ça ensuite, ça va rester ici. En fait vous constituez une sorte de banque de semences.
Non, nosotros las estamos renovando. O sea, nosotros si queremos tener...
Non. Nous la renouvelons. Nous voulons les avoir ici pour faire des exercices pédagogiques, pour que les personnes qui nous rendent visite les connaissent. Nous avons ici un petit terrain pour que nous puissions multiplier les semences. Les semences doivent être cultivées, c'est la meilleure manière de les préserver. Sinon, les semences mourraient et seraient perdues.
Je m'appelle Tobias de Jesús Velasco Morales, de la communauté de Guamal. Je suis un défenseur des semences traditionnelles et ancestrales de notre réserve indigène. Pour nous, c'est la vie et la santé, parce que nous dépendons de toute la nature qu'il y a dans notre terre et nos forêts, parce que c'est notre nourriture.
Pourquoi utiliser des semences naturelles plutôt que des semences industrielles qui vous permettraient d'avoir plus de récoltes ?
Dans notre culture, ça ne nous intéresse pas de devenir riches. Mais nous voulons avoir une longue vie et que, comme nous, nos fils et nos filles qui viennent après nous s'alimentent de façon naturelle et qu'ils aient une vie saine pour le futur de leur famille.
Alors ici, on a plein d'haricots en fait différents. Quel est l'intérêt d'avoir autant de variétés de haricots?
Pour moi, c'est très important d'avoir toutes ces variétés parce que nous ne savons pas quand elles pourraient disparaître. C'est pour ça qu'on nous appelle les gardiens. C'est précisément parce que nous défendons toutes ces semences qui fournissent à manger. Nous les conservons et nous en prenons soin.
Alors qu'est-ce que vous faites de toutes ces semences après? Là, vous les replantez, vous les donnez, vous les vendez?
Nous avons une vision naturelle et culturelle. Les semences sont destinées à être partagées. C'est pour le bénéfice des communautés. Bien, alors on va par là voir la fameuse cardamone, qui est une plante bonne pour donner de l'énergie et pour la santé. Les gens la consomment et tirent des produits de cette plante. Voilà, c'est la fameuse cardamone. Elle se cultive en temps de lune, comme c'est le cas en ce moment. On la taille pour qu'elle produise mieux. Ici, c'est une plante médicinale, la veterina. C'est une plante qui est bien adaptée au climat chaud. Nous l'utilisons pour la santé des animaux, mais aussi des êtres humains.
Quel est l'intérêt en fait pour vous par rapport aux autres de les conserver ?
Je sais que les autres, ça ne les intéresse pas. Ils disent que nous vivons dans le passé, que nous sommes en retard sur notre temps. Nous pensons que nous ne vivons pas dans le passé. Nous faisons ce que nos ancêtres ont fait toute leur vie. Ils pensaient que toute la médecine venait du sol et ils se soignaient avec les plantes. Nous essayons de maintenir cette plante parce que si elle disparaissait ici, elle n'existerait plus dans aucun autre endroit au monde. C'est pour ça que nous défendons ces semences. Ces plantes sont naturelles et n'existent plus en dehors des endroits où les gens comme moi les conservent. Nous vivons avec les plantes, les petits animaux qui vivent sous la terre, les micro-organismes. Nous défendons l'écosystème et nous conservons ces produits naturels.
Première partie de ce reportage, donc signé Pierre Lefebvre. Réaction de votre part, Philippe Desbrosses.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit encore à la manœuvre les femmes en premier là. C'est très intéressant. Je fais référence aussi à Vandana Shiva, oui, avec laquelle nous essayons de faire un axe Inde-Europe et Afrique pour essayer de apprendre aux petits agriculteurs à reproduire eux-mêmes leurs semences, parce qu'il y a comme ça qu'on s'en sortira, pour que en fait on se réapproprie ce qui était notre fonction naturelle et gratuite. Mais ce que
alors que la dominante aujourd'hui, je ne parle pas de la France, mais dominante mondiale, c'est absolument l'inverse.
Oui, complètement.
C'est quand même la mainmise sur le vivant.
C'est ça, c'est ça. Et la plante miracle unique qu'on va étendre à l'ensemble de la planète.
Bien sûr, oui.
Contrairement à ce que les petits paysans ont mis un point d'honneur à faire pendant des siècles, des millénaires, d'adapter leurs semences à leur situation d'altitude, d'ensoleillement.
Climatique, du sol.
Voilà, tout ça. Mais aujourd'hui, la plante miracle, avec toutes les béquilles technologiques et chimiques, bien entendu, elle devrait, d'après ses promoteurs, pouvoir résoudre les problèmes du monde. Sauf que demain, c'est pas une agriculture industrielle qui va, avec quelques paysans et des grands champs standards de blé, etc. C'est complètement différent ce qui nous attend. Ce qui m'a frappé dans ces témoignages, c'est que sauver les semences, c'est pas seulement sauver les gènes. C'est préserver nos cultures, nos légendes, les histoires qui s'y rattachent. C'est aussi préserver notre intégrité et notre liberté. Et je crois qu'on serait dans un total désarroi sans ces racines profondes. Nous préservons en fait un héritage culturel en même temps qu'un héritage génétique. Et nous contribuons à la pérennité de la vie sur qui la riz sur terre qui repose sur la plante verte.
Bon, alors comme nous aimons aussi la diversité culturelle et musicale, en voici deux que l'on aime beaucoup.
Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek. When we're out together, dancing cheek to cheek, yes, heaven, I'm in heaven, and the kids that hung around me through the week seems to vanish like a gambler's lucky streak. When we out together, dancing cheek to cheek.
Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek. When we're out together, dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together, dancing cheek to cheek,
yes,
dance with me.
Cheek to cheek sur France Inter, sous de mon amour, Louis Armstrong et Ella Fitzgerald qui ont planté de merveilleuses graines dans nos oreilles. François Burgot avec nous, directeur des relations donc extérieures du Groupement National Interprofessionnel des Semences. Bon, on a quand même vu aujourd'hui cette biodiversité, on le voit bien, qui se casse la figure. Alors, que peut faire le CNISP justement pour stopper cet effondrement? Car vous le savez, c'est un sujet qui est planétaire, qui n'est pas qu'un sujet français. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider justement ces différentes variétés, on va dire ancienne, plus ou moins ancienne, à retrouver, on va dire, de la vigueur.
Denis, pour être plus clair sur qu'est-ce qu'on peut faire, je voudrais quand même relever plusieurs choses.
Je vous en prie.
D'abord, si vous étiez venu en France il y a 200 ans, vous auriez rencontré les gardiens de la biodiversité et des semences comme vous les rencontrez aujourd'hui en Colombie. Les sélectionneurs français comme la famille Després aujourd'hui, qui est leader en betterave à sucre, en blé, dans le nord de la France, ses ancêtres en 1830, c'était effectivement des agriculteurs qui gardaient les semences. Deuxièmement, oui, bien sûr, il faut constituer des réseaux. Les paysans colombiens ont parfaitement raison. C'est ce que les semenciers français ont fait dans les années 70. Ils ont constitué des réseaux pour garder ensemble toute cette richesse des variétés. Troisièmement, et ça me semble important, parce que Philippe Desbrosses au début a rappelé, ou vous, que la FAO disait 75% de la biodiversité a disparu et donc il y a de moins en moins de semences et de variétés. Quand la FAO dit ça, elle parle essentiellement d'espèces et pas de variétés, et donc c'est mon dernier point. Un, on cultive plus de variétés de carottes aujourd'hui que du temps du catalogue de Villemorin que vous avez cité. Il y a 76 variétés de carottes qui sont cultivées aujourd'hui. Je ne vais pas vous assommer les auditeurs de chiffres, mais c'est comme ça dans toutes les espèces. Il y a 300 variétés de blé cultivées sur le territoire français, et pas un seul blé. Et effectivement, on peut faire mieux. Philippe Desbrosses rappelait tout à l'heure que nous, l'interprofession des semences, ça fait des années qu'on pousse l'État pour les variétés anciennes à avoir des réglementations plus souples, plus faciles, qui permettent à plus de gens d'intervenir.
Alors pourquoi ça bloque ? Pourquoi ça bloque ?
Parce que il a fallu que l'État et l'Europe comprennent qu'on était sorti de la période de crise alimentaire d'après la Seconde Guerre mondiale qui avait conduit à construire ce système, que ce système avait rempli son office. On vit aujourd'hui dans une totale sécurité alimentaire et on peut se permettre plus de diversité, on peut se permettre de revenir à des choses qui sont parfois plus coûteuses parce que effectivement elles donnent moins de rendement, elles sont plus sensibles des fois aux maladies ou au stress. Mais le consommateur est prêt aujourd'hui à acheter une variété de tomates anciennes parce que il a ce pouvoir d'achat qui lui permet de dire ben voilà, ça coûte peut-être plus cher, mais je retrouve un goût qui m'intéresse et que j'avais perdu.
Philippe Desbrosses, votre combat quand même, oui, aussi avec le réseau semences paysannes, etc.
J'admire votre optimisme, monsieur Burgos, quand vous dites que on a résolu pour toujours la sécurité alimentaire de la planète, ce qui n'était pas le cas auparavant.
J'ai dit, on l'a résolu en Europe, mais pas pour toujours, puisque l'Europe, excusez-moi de vous interrompre, mais je l'ai dit tout à l'heure là, vous savez que des amis à vous avaient demandé à l'Europe qu'on arrête toute cette législation sur le catalogue et le contrôle de la qualité. Et l'Europe, justement, la Cour de justice a dit non, on ne va pas l'arrêter parce que même si nous sommes en sécurité alimentaire, nous considérons que cet enjeu reste sur la table et qu'on ne peut pas se permettre de prendre le risque un jour d'avoir 30% de moins de blé parce que quelqu'un se sera trompé et aura vendu les mauvaises variétés. Donc je ne dis pas que la sécurité alimentaire est derrière nous, je dis simplement que...
Surtout avec 200 millions de personnes de mémoire dans le monde, effectivement, qui ne mangent pas du tout à leur faim,
bien
en état de famine, et puis 2 milliards qui ne mangent pas leur faim.
Mais Philippe Desbrosses reconnaîtra que c'est plus parce que l'Afrique fait une tonne à l'hectare qu'il y a des gens qui ont faim en France, et en Afrique, et dire que c'est la faute des sélectionneurs français parce qu'ils font 7 tonnes de blé à l'hectare qu'il y a la faim en Afrique, et d'un raccourci. Alors, qui me semble un peu difficile
là vous,
à tenir.
Vous travestissez mes propos, parce que j'ai pas dit que c'était de la faute des sélectionneurs français. J'ai dit simplement que on peut admettre qu'on préserve les droits d'auteur, puisqu'en fait c'est la propriété intellectuelle.
Certificat
d'obtention végétale ou les brevets, c'est ça. Je comprends qu'on puisse les préserver, je ne lutte pas contre ça. Ce qui m'étonne, c'est comment le catalogue a dérivé, comment la réglementation s'est soudain glissé de la protection de ceux qui inventent des plantes nouvelles à l'interdiction, en tout cas, à l'impossibilité pour les autres d'utiliser les plantes du domaine public. C'est ça le problème. C'est que ce catalogue, il ne fait pas que vous protéger, il empêche la concurrence ou il empêche les gens d'être libres de cultiver les plantes qu'ils cultivaient depuis des siècles.
Alors je vous propose, moi, de repartir en Colombie. On va quitter donc Tobias et sa bataille pour une agriculture saine et autonome. Qui va lui succéder? Car les enfants, en fait, préfèrent aujourd'hui des emplois plus rémunérateurs dans les activités minières et en ville. Et c'est peut-être une des menaces, on va dire, actuelles pour ces semences traditionnelles. Seules, d'ailleurs, les réserves aussi indigènes bénéficient d'une certaine autonomie et donc ont interdit sur leur territoire le maïs transgénique qui, là-bas, bien sûr, est autorisé. On va suivre donc Roberto Rodriguez qui nous convie dans son champ traditionnel, au micro de Pierre Lefebvre.
On a devant nous un champ de maïs. Donc ça, c'est du maïs créole, là.
Si, et maïs criollo. Esta variedad.
Oui, c'est du maïs créole. Cette variété, c'est du maïs Lomo Bayo, une des 25 variétés que nous avons dans la réserve.
On voit un champ comme ça quand on ne connaît pas. Qu'est-ce qui fait que vous reconnaissez que c'est bien un champ de maïs créole?
La différence de ce maïs sur le plan physique par rapport aux autres, c'est que les plants de maïs ont besoin d'être semés à une distance de plus de 1 mètre des uns des autres pour qu'ils puissent se développer. D'abord parce que nous ne faisons pas de monoculture, nous faisons des cultures associées. Ici, on peut voir qu'il y a d'autres plantes à côté des plants de maïs.
Alors ce qu'on voit là, la plante par exemple, justement, là, on a une petite plante devant nous avec 6 feuilles.
Ce que nous voyons ici, associé au maïs créole, c'est du manioc. C'est une plante qui est aussi originaire de notre région et que nous avons conservée durant plus de 1000 ans.
Alors là, pour le coup, elles sont plantées vraiment très près là, du plant de maïs.
Oui, très près. Elles aiment être associées avec cette variété de maïs. Et nous avons l'habitude de planter une autre plante qui s'appelle l'igname.
On peut aller le voir, hein. On va descendre dans le champ. Alors c'est cette feuille, ce sont ces feuilles là, un petit peu oblongues qu'on voit là. Ça ressemble un petit peu, pour ce que je connais, à du liseron. Et alors à quoi ça sert finalement de mettre ces autres plantes juste à côté du plant de maïs?
Eh bien parce que le maïs sert à soutenir l'igname. Il lui sert de tuteur. Parce que l'igname produit ses tubercules sous la terre uniquement s'il trouve quelque chose pour grimper. C'est aussi une pratique de nos ancêtres que nous avons perpétuée. Le maïs sert à l'igname. Et l'igname sert aux paysans en créant un couvert végétal qui empêche le développement des herbes sauvages. C'est aussi le rôle du manioc. Ils empêchent ces herbes de se développer.
Alors, je me retourne derrière, là, on a d'autres maïs, hein, juste derrière, là, qui sont... d'une part, il est petit, d'autre part, si je regarde ce maïs, il est mangé par des insectes, hein, les feuilles sont complètement trouées, et puis on voit sur le maïs lui-même, il y a des petites taches noires, et puis on voit un petit insecte, d'ailleurs, qui est dessus. Donc, il n'y a pas du tout d'intrants ici. Comment ça se passe pour avoir quand même une récolte suffisante quand on voit un maïs qui est aussi attaqué par les insectes?
Nous autres, nous disons que les maïs font partie de l'être humain parce que nous faisons partie de la nature. Nous sommes vivants comme les plantes. Et autant les hommes que les plantes, nous dépendons du temps, de l'eau, de l'air et de la lumière.
Estos insectos que atacan.
Contre ces insectes qui s'attaquent au maïs, nous n'utilisons aucun insecticide pour les tuer. Parfois, la plante est attaquée et ses feuilles sont trouées par une chenille qui s'appelle la légionnaire d'automne et qui mange les feuilles ou le cœur de la tige. Mais ça se produit uniquement avec la sécheresse. Quand l'eau arrive, c'est elle qui sert d'insecticide, parce que l'eau s'infiltre dans le cœur de la plante, et le ver, s'il veut survivre, doit obligatoirement sortir sous peine de se noyer. On n'utilise donc aucun insecticide, parce que la nature elle-même, et dans ce cas-là, l'eau, est un insecticide pour la plante.
On est devant un plant de maïs qui est sans doute arrivé à maturité, il fait plus de 2,50 m. Et là, on a affaire à une plante qui paraît très saine.
Oui, elle est tellement habituée à être associée avec les autres plantes qu'aucune d'elles ne porte préjudice aux autres. Là, tu vois ici, il est tendre. On va ouvrir l'épi pour regarder.
Et alors là, on peut le manger là directement?
Si, claro.
Oui, bien sûr.
Así como está, se puede comer. Dulce.
On peut le manger comme il est.
Delicioso.
C'est délicieux, non?
Ouais, c'est très doux.
Au contraire, les maïs industriels sont amers. On voit la différence de saveur. Je ne peux pas le garantir, mais si c'est amer, ça doit certainement avoir un effet sur la santé et le corps de la personne qui mange le maïs.
Alors désormais, l'inquiétude pour les semences traditionnelles vient aussi de la loi, parce que seules les semences industrielles ont un statut juridique qui est clair, comme en France d'ailleurs, et la loi est floue sur les semences traditionnelles, donc menace, car sous la pression des semenciers comme Monsanto aux États-Unis, Syngenta, Pionnière, évidemment tout ce que j'oublie, avec le traité de libre-échange avec les États-Unis, eh bien leur circulation pourrait être réduite, voire interdite. Mais on fait confiance aux agriculteurs de Colombie pour résister. Maria Velma González, qu'on a déjà écoutée, pourquoi est-ce important de garder ces semences traditionnelles?
Parce qu'elles font partie de notre culture. Ce n'est pas seulement un grain de maïs ou un haricot que nous mettons dans l'assiette pour nous nourrir. Mais c'est toute une histoire, toute la culture d'un peuple qui s'est forgée avec l'alimentation, et cette alimentation est basée sur ces semences. Ce n'est pas seulement une question de nourriture, ce sont aussi des semences qui prennent soin des forêts, les semences qui soignent les animaux, les plantes médicinales qui soulagent nos maladies, les plantes que nous utilisons pour l'artisanat, qui nous servent pour construire nos habitations, nos vêtements, nos outils. Pour nous, les semences traditionnelles, c'est tout cela. Toute la culture, tout notre passé et tout notre futur, parce qu'elles font partie de ce que nous sommes.
Reportage de Pierre Lefebvre en Colombie, que l'on remercie. Philippe Desbrosses, demain c'est quoi? Parce qu'on voit bien qu'il y a comme une espèce de rouleau compresseur. En même temps, on essaye, et à juste titre aussi, on peut le comprendre, dans certains cas, donc avec les fameux brevets, d'avoir des plantes qui sont homogènes, qui doivent être stables et diversifiées. Et...
Demain, c'est le vote au Sénat. Pas demain ou après-demain, mais dans quelques jours. Un vote qui doit justement clarifier la situation des plantes du secteur traditionnel. On va voir comment les sénateurs vont voter. Les députés ont voté l'amendement que nous avions présenté pour libérer les semences. C'est pas sûr.
Qu'est-ce que l'on vous interdit, que l'on comprenne bien? Aujourd'hui, c'est quoi?
Elles ne peuvent pas circuler librement, elles ne peuvent pas être échangées ou vendues librement ces plantes de variétés traditionnelles qui, à partir des années 60, avec la législation qui a changé, on a assisté à un effondrement de tout ce potentiel que nous devons garder impérativement, puisque c'est pour ça qu'elles ont disparu à vitesse grand V. Donc il faut absolument que les sénateurs, je veux dire les parlementaires, se réveillent, parce que c'est de leur devoir de préserver pour nous tous cette biodiversité. Donc on va voir comment ils vont voter.
Merci beaucoup Philippe Desbrosses, merci à vous François Burgot. C'est toujours très court, donc on peut pas tout faire. Merci à Michel Bézikian et Clémence Bille à la technique, à Caroline Debray, à Xavier Pestugia qui réalise l'émission, à Thierry Dupin qui a choisi les disques, à Anne Gouzon qui nourrit les sites. Vous n'hésitez pas, alors à la fois le podcast, de vous exprimer aussi sur le co2monamour.fr, enfin franceinter.fr. Moi je vous retrouverai avec grand plaisir jeudi, avec pas mal d'émotions, parce que je serai au festival Chapitre Nature qui est dans l'Indre. Ça se passe au Blanc, donc au Blanc dans l'Indre, Chapitre Nature. Ce sera à 15h parce qu'on m'a demandé de rendre un hommage à Jean-Marie Pell qui était aussi un défenseur de la biodiversité, on s'en doute bien, et donc des graines. Donc je vous attends, 15h, ce sera jeudi 5 mai au Blanc pour parler de Jean-Marie Pell. Je vous avoue, je n'ai rien préparé, je vais me laisser aller. Je pense que ce sera peut-être la meilleure des choses. L'Atelier du Montilou, ce sera demain à 19h54. Je vous souhaite un excellent week-end.